Frères et sœurs bien-aimés, quand je prépare un couple pour ce grand jour de leurs noces et que l'on aborde la question de la célébration et du choix des textes, je leur donne quelques critères pour choisir le texte de la liturgie. Je leur dis, le texte que vous allez choisir va dire quelque chose de vous à l'assemblée, de ce que vous voulez vivre au seuil de votre mariage. Mais aussi le texte que vous avez choisi, parce que c'est une parole de Dieu, et nous le savons, la parole de Dieu est une parole vivante, c'est quelque chose que Dieu vous dit à vous. Et il pourrait être intéressant, vous qui avez échangé vos consentements devant le Seigneur, qui vous êtes engagé dans un couple durable, eh bien, que vous puissiez refaire mémoire du texte que vous avez choisi. Vous avez peut-être oublié, vous avez retrouvé peut-être le livret de votre mariage, vous pouvez, de même pour nous, prêtres ou diacres, on peut faire mémoire de ces textes que nous avons choisis pour notre ordination qui éclaire notre chemin. Et Guillaume et Mireille ont choisi des textes vraiment très, très parlants, très éclairants pour la vie matrimoniale, mais pas que. D'abord, ce grand programme de vie que nous voyons dans la première lecture, parce que la lettre de saint Paul apôtre justement aux Thessaloniciens, dans cette partie-là, il nous dit, voilà, comment est-ce que vous voulez vivre comme disciples de Jésus? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, discernez la valeur de toutes choses. Il y a toute une série d'injonctions, de conseils qui sont donnés par l'apôtre pour tous ceux qui veulent vivre de la vie du Christ et qui veulent le suivre. Et ça pourrait être intéressant, mais que chacun le fasse pour soi, qu'on puisse, phrase par phrase, se poser la question, et moi, où est-ce que j'en suis de cet appel de l'apôtre à suivre le Christ, de façon à, par exemple, donner du courage à ceux qui en ont peu, à soutenir les faibles, à être patient envers tous. Intéressant qu'on puisse faire une relecture de vie, puisque 30 ans de vie matrimoniale, c'est vraiment regarder dans le rétroviseur et regarder et voir comment vous avez, Guillaume et Mireille, suivi le Christ. Et si vous en avez donné ce programme de vie, eh bien, c'est aussi pour que nous-mêmes, nous puissions nous en emparer. Mais, et c'est un texte qui vous tient très à cœur, le texte de chemin des disciples d'Emmaüs, parce que ça dit beaucoup de choses de la vie, et c'est un texte vraiment qui éclaire la vie de couple de façon magnifique, parce que ça dit, premièrement, qu'une vie de couple, comme une vie tout court, c'est un chemin. C'est un chemin. Et le chemin n'est pas simplement un sentier qui se dessine entre dans les champs, etc. Non, le chemin, c'est d'abord une personne. Nous, comme chrétiens, disciples de Jésus, à l'école de la Vierge Marie, eh bien, on découvre le chemin comme une personne. Et dans ce chemin, il y a plusieurs étapes, et vous pourriez aussi reméditer et qui éclairer par rapport à votre vie concrète, à votre couple, pour ceux qui sont en couple concret, comment est-ce que le chemin d'Emmaüs vient éclairer aussi votre propre chemin. Il y a une étape parfois et ce n'est pas forcément successif dans le temps, ça peut être des moments peut-être après plusieurs années, ou voilà, des étapes parfois de découragement, ça commence par un découragement, par un temps d'épreuve, le Seigneur n'est plus là, ce sont des disciples qui ont cru que c'était lui qui allait sauver Israël, ils y ont cru que dur comme fer, etc. Voilà, et toi tu es là, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem, tu es là et ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Il y a des moments dans notre vie où on ne reconnaît pas le Seigneur. Ça c'est très clair. Il y a des moments dans notre vie où on est même en colère contre le bon Dieu. Parce qu'on dit, où est-ce que tu es? Et là, très certainement, c'est deux hommes, on ne dit pas leur nom, parce que ça peut être chacun d'entre nous, ils ont nos noms, eh bien, ils sont dans la tristesse, ils sont dans le découragement. Ils disent, au fond, est-ce qu'on a bien fait de le suivre? Pourquoi est-ce que tu permets que le juste soit tué avec le pécheur? Et donc on voit, ils s'arrêtèrent, le visage sombre, voilà. Et bien, et puis petit à petit, il y a tout un chemin d'abord intérieur qui se fait. Il dit, il y a quelques femmes qui nous ont dit, voilà, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas vu le corps. Et puis certains d'entre nous ont allé vérifier, parce que visiblement, ils ne croyaient pas beaucoup ce que disaient les femmes, donc du coup, ils sont allés vérifier, bon... Il devait être un peu macho, etc., sur les bords. Et donc, voilà, on va voir si c'est vraiment ça. Et puis oui, c'est vraiment ça. Il y a des signaux faibles dans nos vies de la présence de Dieu. Il y a des signaux faibles dans nos vies de la présence de Dieu. C'est-à-dire que ces signaux nous mettent en chemin, nous alertent, nous questionne. Mais alors, si ces femmes, si ces hommes que nous connaissons ont dit ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a des signes qui nous sont donnés que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et dans la vie matrimoniale, les époux sont l'un pour l'autre des signes de cette présence. De se dire, de s'encourager, de se soutenir, de se fortifier, et de découvrir l'autre comme une grâce pour sa vie, une miséricorde qui nous est faite. Et puis, ensuite, Jésus leur parle et ouvre leur intelligence. Intelligence, vous savez que ça vient de deux mots en latin, intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur. À un moment donné, le Seigneur nous donne de lire à l'intérieur des événements, de lire à l'intérieur de notre vie, et de lire quoi? Eh bien, de lire sa présence, de découvrir son appel qui n'a jamais cessé de nous habiter. C'est ça, l'ouverture du cœur et de l'intelligence. Hein, vous qui êtes lent à croire, tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? Et puis, voilà. Et puis, parcours Moïse, on aurait voulu être là quand Jésus commentait les Écritures. Je veux dire, c'est de la première main, je veux dire, ce qui n'aurait pas non plus empêché les prêtres de commenter à leur tour, parce que ça fait partie aussi des défauts des prêtres, même si le bon Dieu commente, on recommande derrière. Mais bon, tout toujours est-il que, voilà, ils ont découvert quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans une vie, des étapes dans une vie de couple, dans une vie tout court, où on commence à comprendre. Je veux dire, on devient intelligent, non pas de cette intelligence scolaire, etc., mais on commence à lire les choses. On voit notre vie comme un livre. Et au fond, on commence à lire parce qu'on a accepté de faire mémoire. Vous savez, le chrétien, comme l'homme de la Bible aussi, ne compte pas comme les autres. Le chrétien, il compte en regardant en arrière. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il compte en faisant mémoire. Déjà 5 ans, déjà 10 ans, déjà 30 ans. Et faire mémoire, c'est la faculté du présent. C'est pas juste faire mémoire, avant c'était mieux, non. Faire mémoire, c'est la faculté du présent. Et tant et si bien que qu'est-ce que nous faisons dans chaque Eucharistie, si ce n'est mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, et c'est réellement sa présence au milieu de nous qui se donne. Alors oui, nous être intelligent, c'est faire mémoire, et nous pourrions chacun, dans notre là où nous en sommes de nos vies, faire mémoire de cette présence que le Seigneur nous a rejoint, parce que les disciples d'Emmaüs ont été rejoints dans leur tristesse, etc., dans leurs épreuves. Le Seigneur leur a ouvert leur cœur à découvrir sa présence. Peut-être nous pourrions aussi, durant cette célébration, faire mémoire justement des moments où le Seigneur nous a éclairé notre cœur, éclairé notre vie. Hein, de ces moments de ciel bleu, il y en a. Il n'y a pas que l'épreuve dans nos vies, il n'y a pas que le découragement comme dans la vie des disciples d'Emmaüs. Non, il y a aussi beaucoup de ciel bleu. Eh bien, de faire mémoire de ce ciel bleu, c'est ce que... Mireille et Guillaume nous invitent aussi à faire, à travers le choix de ce texte. Et puis, ensuite, après avoir révélé le sens des Écritures, il se cache à nouveau à nos yeux. N'oublions pas que la foi, on dit, c'est un régime d'indigence. Ça veut dire quoi ? Régime d'indigence. La foi, c'est faute de mieux. Faute de quoi ? Faute de la vision, faute du face-à-face. On n'a pas le face-à-face. C'est qu'après la mort qu'on verra Dieu face-à-face. Mais aujourd'hui, il n'y a que la foi. La foi, c'est un chemin de pauvreté. C'est un chemin d'humilité. Et plus j'avance comme prêtre, plus je vois que les sacrements sont les sacrements de la foi, évidemment, mais plus les sacrements sont les sacrements d'une très grande humilité, d'une très grande pauvreté. Un peu de pain, un peu de vin, quelques gouttes d'eau versées sur le front d'un enfant, de l'huile consacrée qui se répand sur le corps d'un malade, quelques paroles qu'un jeune couple échange, et c'est tout le ciel qui s'ouvre. C'est tout le ciel qui s'ouvre. Oui, c'est beau de voir que le Seigneur nous invite à vivre de foi dans notre chemin. Il nous invite à vivre de foi parce que nous avons découvert quelque chose de sa présence. Être disciple de Jésus, c'est vivre d'une présence. C'est faire une rencontre. C'est descendre à l'intérieur. C'est découvrir qu'en nous-mêmes, nous portons plus que nous-mêmes. Et ça, c'est tellement, tellement beau. Nous sommes comme un tabernacle. Le tabernacle, à l'exemple de la Vierge Marie, porte en lui-même plus que lui-même. Alors oui, je trouve que à travers le choix des disciples d'Emmaüs, Mireille Guillaume, vous nous donnez à nous aussi d'approfondir notre chemin, de faire mémoire de toutes les fois où le Seigneur nous a rejoints. Eh bien, on peut demander à Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, de pouvoir, nous aussi, avoir ce recul, avoir cette profondeur, rentrer dans ce cheminement pour faire nôtre les paroles du psaume « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Amen. »